9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, une révolution pour l'hôpital. Alors que le gouvernement débute ses concertations, ce qu'il a appelé le Ségur de la santé, le professeur André Grimaldi publie un vaste état des lieux rédigé par une vingtaine d'experts et de professionnels sous le titre « Santé, urgence, salaire, effectif, carrière, gestion des hôpitaux ». André Grimaldi appelle à une vaste refondation, il va nous en parler. Et à propos de salaire, voici le débat relancé de façon spectaculaire par Patrick Artus, le chef économiste de Natixis, qui dénonce 40 ans d'austérité salariale avec des salaires qui progressent moins vite que la productivité, phénomène commun à l'ensemble des pays développés. Patrick Artus propose des pistes pour sortir de cette austérité, il nous expliquera. Mais d'abord, Anne Sinclair qui a enquêté sur l'une des premières rafles de juifs français en décembre 41 vers le camp de Compiègne. Histoire familiale, épisode méconnu, elle est ma première invitée.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Anne Sinclair.
Bonjour Patrick.
La rafle des notables chez Grasset, c'est un livre qui devait être personnel. Vous vouliez raconter le destin de votre grand-père paternel, Léonce Schwartz, dont la légende familiale disait qu'il avait réussi à s'échapper du camp de Drancy. Et puis vous découvrez qu'en réalité, il avait été déporté et enfermé à Compiègne dans des conditions épouvantables. Et vous découvrez ce pan d'histoire méconnue de la persécution des Juifs sous l'occupation, 7 mois avant la rafle du Veldiv, la rafle des notables. Qui était-il ?
Écoutez, c'était pas un livre sur mon grand-père, même au départ. Je voulais un peu retracer son itinéraire qui, de fait, m'était assez peu connu pendant la guerre. Et à la fin du livre, il ne m'est guère plus connu. En revanche, s'il y a un livre, c'est parce que j'ai découvert, en effet, à la fois une rafle et un camp qui était connu des spécialistes, connu des historiens, mais inconnu en tout cas de moi, et que j'ai voulu raconter cette histoire collective. Au fond, mon grand-père n'est qu'une ombre qui passe dans ce récit, comme l'illustration, j'allais presque dire le prétexte, à raconter une histoire dramatique que j'ai découvert.
Oui, alors qui était-il ? C'est notable, alors, 743 personnes, donc prises un matin de décembre 41 par la Wehrmacht avec l'appui de policiers ou de gendarmes français.
C'était en effet une rafle qui a été voulue par les nazis après, comme représailles, si vous voulez, après des attentats commis contre les forces d'occupation. Et cette rafle était la troisième en France. Il y en a eu une en mai, une en août, et celle-là est de décembre, en effet. Mais c'est la première, et on y viendra, qui a fourni le premier contingent de juifs déportés de France. Et ils ont visé d'abord, en effet, ce qu'ils ont appelé des notables, ou plus exactement, ce qu'en allemand ils appelaient des juifs influents, c'est-à-dire, en effet, des magistrats, des présidents de cours d'appel, des présidents de cours de cassation, des intellectuels, comme le mari de Colette, le frère de Léon Blum, un grand avocat, Ténor du Barreau, qui était des sénateurs, qui avait été au cabinet de Clémenceau, des historiens, des intellectuels qui en effet représentait ce qu'on aurait pu appeler un establishment influent. Mon grand-père, lui, ne faisait pas partie de ça. Il était un petit chef d'entreprise qui avait un commerce de dentelle en gros, et il s'est trouvé dans cette liste, et cette liste au fond avait été puisée dans un fichier juif, ça s'appelait le fichier juif, le fichier Tullard, qui existait à la préfecture de police de Paris, puisque les Allemands avaient demandé aux Juifs de se faire recenser, ce qu'ils avaient fait avec une certaine naïveté, bien sûr, et donc les Allemands n'avaient qu'à puiser. Donc ils ont puisé parmi, en effet, des dentistes, des avocats, etc. Et il y a eu un certain nombre de Juifs, 743, qui ont été raflés plutôt dans des quartiers, disons, plutôt bourgeois. C'était des ce qu'ils s'appelaient eux-mêmes, des Israélites, ce qui est un terme qu'on n'emploie plus du tout aujourd'hui, sinon peut-être par les antisémites. Mais en tout cas, c'était des Juifs intégrés depuis des générations dans la société française.
Et souvent d'origine alsacienne, oui. Oui.
Oui, oui, mon grand-père était d'origine alsacienne, et il y en avait un tas d'autres qui avaient même oublié, si j'ose dire, qu'ils étaient juifs, enfin en tout cas qu'ils n'étaient pas reliés d'une manière ou d'une autre à la communauté de manière active, et qui donc se sont demandés pourquoi on les arrêtait. Ils avaient été combattants, anciens combattants en 14, souvent en 1940. Je parlais de Pierre Masse qui était là, son frère était colonel, toujours d'active, et ils se disaient mais j'ai toujours servi la France, pourquoi suis-je arrêté? Et ils ont adjoint, pour avoir un contingent de 1000 déportés, la Gestapo voulait arriver à ce chiffre magique, et ils ont adjoint 300 juifs étrangers qui étaient des réfugiés de Pologne, d'Allemagne, de Hongrie, de Roumanie, et qui avaient fui le nazisme et qui avaient été internés par la France à Drancy. Et donc il y a eu cette cohabitation étonnante de juifs très très intégrés à la société française et des juifs étrangers qui, eux, avaient déjà connu les pogroms ou la discrimination.
Vous avez retrouvé, Anne Sinclair, dans les archives des lettres, des journaux qui racontent ce camp de Compiègne, qui ont souvent été rassemblés par Serge Klarsfeld. Assez peu de traces de votre grand-père, mais des récits terrifiants de personnes traitées comme des animaux et qu'on laisse littéralement mourir de faim à Compiègne.
Oui, ce qui m'a frappé, c'était que ce camp était un camp nazi. C'était un camp nazi en France, administré par les Allemands, théoriquement par la Wehrmacht, mais en fait par la Gestapo, à 70 kilomètres de Paris. Et ce camp était un camp assez vaste, où il y avait des prisonniers de civils, à la fois des résistants, des communistes, des juifs, des russes, qui avaient été arrêtés, puisque l'Allemagne avait déclaré la guerre à la Russie un peu plus tôt. Et il y avait un camp des Juifs qui était à l'écart. Et dans ce camp des Juifs, vous parlez de Serge Klarsfeld, en effet, ce livre n'existerait pas sans les récits qu'il a aidé à publier, les récits de survivants ou de ceux qui prenaient le train vers Auschwitz et qui ont jeté leurs derniers souvenirs par la fenêtre du train. Et c'était un camp atroce, un camp où il n'y avait pas de chambre à gaz, pas d'extermination, mais où la solution finale était en marche par d'autres moyens, c'est-à-dire la mort par la faim, par le froid, par la maladie, par des conditions d'hygiène atroces, par le fait qu'ils avaient un morceau de paille pour dormir, ils avaient une soupe par jour, pas de conditions pour rester propre et vaillant. Une cinquantaine d'ailleurs est mort dans ce camp avant que la plupart des autres ne meurent dans les chambres à gaz. Et ils ont été peu nombreux à mourir grâce à la solidarité des autres camps qui étaient là, qui partageaient leur maigre portion, qui était un peu plus riche que celle du camp des Juifs. Et c'était vraiment la mort voulue par la famine, par un sadisme, par la cruauté, par la sauvagerie bureaucratique qu'on a connue par la suite. Et c'était le début de la mise en œuvre de la solution finale, puisque la destination de ces déportés de Compiègne devait être et a été pour l'essentiel Auschwitz.
C'est un livre de mémoire, pour la mémoire et pour se souvenir que ce camp-là a existé dans ces conditions-là. Comment se fait-il, Anne Sinclair, que cette histoire vous a si longtemps échappé et que votre curiosité se réveille aujourd'hui ?
C'est un peu mystérieux. D'abord, je pensais connaître beaucoup de choses de l'occupation, de la déportation. J'avais lu en effet tous les livres sur le sujet, y compris d'ailleurs les livres sur la déportation, sur la discrimination et les arrestations en France, comme le livre de Marius et Paxton, comme les livres de Laurent Joly, mais qui traitait plus spécifiquement de la traque des Français, des Juifs par les Français. Les Français, on le sait par la rave du Veldiv, qui est très emblématique et qui est restée très emblématique, et par les témoignages et par les déclarations successives des présidents de la République depuis Jacques Chirac, la France avait prêté main forte, et on le sait, aux rafles et à l'aide à l'extérieur à la déportation. Là, en l'occurrence, il ne s'agissait que des nazis dans cette rafle. Et pourquoi je me suis... Eh ben, c'est le mystère du fait que je m'étais contentée au fond, alors que je n'ignorais rien de cette période, qu'il n'y avait pas de sujet tabou dans la famille, je m'étais contentée d'un récit assez rapide qui disait ton grand-père a été arrêté, enfermé, et ta grand-mère a réussi à le faire sortir juste avant la déportation vers Auschwitz. Et n'ayant pas d'informations, n'ayant pas de documents, n'ayant rien entre les mains, je m'étais contentée de ce récit sur ce grand-père que je n'ai pas connu et qui est mort dans son lit, pas dans des chambres à gaz, mais des suites de cet internement et de cette déportation.
Merci beaucoup Anne Sinclair. La rafle des notables chez Grasset est enfin disponible en librairie, dans les librairies qui ont pu rouvrir. Merci à vous.
Merci d'être Europe 1.
Dans un instant, le chantier de l'hôpital et de notre système de santé, le professeur André Grimaldi en ligne avec nous.
Europe 1, de 9h à 10h le dimanche, c'est arrivé demain avec vous Patrick Cohen.
Bonjour André Grimaldi.
Bonjour.
Professeur de médecine, ancien patron de la diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, vous signez avec Frédéric Piru et une vingtaine d'experts et de professionnels un livre « Santé urgence » chez Odile Jacob. C'est un vaste état des lieux de notre système de santé dans tous les domaines avec des propositions de réforme. Livre très utile alors que commencent demain les deux mois de consultation qui doivent déboucher sur le plan massif promis par Emmanuel Macron. Avant de rentrer dans le détail, deux mots d'histoire. J'ai été très intéressé par le chapitre que Didier Tabuteau consacre à la grande réforme hospitalière du XXe siècle, celle de Robert Debré, en 1958, qui crée les CHU, les centres hospitalo-universitaires, et instaure le travail à temps plein des médecins hospitaliers. C'est une réforme de cette ampleur qu'il faudrait aujourd'hui, selon vous ?
Oui, au moins cette ampleur, parce que à l'époque, c'est la réforme donc des grands hôpitaux pour qu'ils se modernisent, avec commencement des droits des malades, et puis pour qu'on rattrape notre retard et que la biologie et la recherche deviennent des moteurs du progrès. C'est une réforme aussi importante qu'il faudrait faire, parce que la réforme doit être de l'ensemble du système de santé, et au fond, c'est un peu l'orientation qu'a donné le président de la République lorsqu'il a dit à Mulhouse, on s'est trompé en quelque sorte, il y a des biens comme la santé qui doivent échapper aux lois du marché. La santé gratuite, l'État-providence, c'est pas une charge, c'est un bien collectif. Alors, il faut traduire ça dans les actes. Or, voilà, le problème, c'est que dans la convocation de ce Ségur, le ministre, lui, c'est plutôt on continue en accélérant. Faut qu'on sorte un peu plus rapidement du tout C2A, mais enfin, on voit pas où est le grand changement. Là, c'est une réorientation qu'il faut faire de l'ampleur de celle de 58 et qui a été faite en 58 par une alliance entre les professionnels de santé et le professeur Debré et la haute administration qui ont travaillé pour changer le système et en faire un bien public. Hein. Alors, il y avait une concession que Robert Debré a acceptée, qui était le privé à l'hôpital, mais pour lui, c'est transitoire, c'est l'affaire d'une génération. Hein. Un bien commun, c'est que tous les Français peuvent avoir accès à des soins remboursés par la sécurité sociale.
Mais vous soulignez, André Grimaldi, les deux limites de cette réforme. La prise en charge des maladies chroniques qui se sont depuis développées et qui pèsent de plus en plus lourd sur le système. Et la coordination avec la médecine de ville. Ce sont deux des points sur lesquels vous pensez qu'il faut bouger, évoluer pour
l'hôpital. Absolument. Cette réforme de 58 a eu un inconvénient. Ça a été la coupure avec la ville. Et d'autre part... Et là, Robert Debré s'en était aperçu. On était centré sur la biologie, la recherche, et on avait négligé et la médecine de premier recours, c'est notamment la médecine générale, et les maladies chroniques. Au fond, il y a deux épidémies. Hein. Il y a l'épidémie du Covid et les épidémies infectieuses, pour lesquelles on a vu que notre système est mal adapté. Parce que la tarification d'activité, ça ne va pas du tout pour le Covid. Hein. L'idée qu'il ne faut pas avoir de lit vide parce que ce n'est pas rentable, ça ne va pas du tout quand vous faites des urgences. Il faut évidemment avoir des lits vides quand on fait des urgences pour pouvoir accueillir les patients. Et puis, ce n'est pas adapté non plus aux maladies chroniques. Et dans les deux cas, c'est rapport entre la ville et l'hôpital qui est un problème central. Et puis, le mode de financement. Si vous dites paiement à l'acte pour les maladies chroniques et puis tarification à l'activité, eh ben chacun fait marcher sa machine. C'est comme disait un directeur d'un établissement privé. Il disait, moi, je suis pas là pour défendre la sécu. Je fais marcher les outils qu'on me donne. Je fais de l'activité. Donc, vous faites deux séjours au lieu d'un. Vous voulez occuper des lits en permanence. Enfin, vous êtes dans une logique commerciale qui est totalement inadaptée et aux urgences et aux maladies chroniques. Finalement, on a un système qui est adapté aux maladies aiguës bénignes en ville, aux gestes techniques simples et à la médecine technicienne, c'est-à-dire l'opération du canal carpien, la cataracte ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, qui au fond est un progrès et pour lequel notre système est adapté. Mais il est totalement inadapté aux épidémies et pas seulement les grandes. Hein. Rappelez-vous...
Sur les médecins libéraux, oui. Vous appelez à changer le partage du travail entre médecine de ville et hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que le grand principe de finalement des hôpitaux et la réforme 58, c'était de travailler en équipe. Or, pour des raisons historiques de la médecine libérale, il y a eu un grand retard à la médecine de ville. Actuellement, on s'y met, c'est-à-dire que les communautés de professionnels territoriaux, et là, le Covid a accéléré la nécessité de collaboration dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, entre médecins et infirmières, dans les centres de santé, historiquement. Le travail collectif est indispensable, y compris si vous voulez faire des équipes mobiles pour le Covid, et vous mobilisez, vous ne pouvez pas le faire seul dans votre cabinet. Si vous voulez recevoir des urgences, c'est très difficile à faire seul dans son cabinet. Bon, donc tout ça nécessite, alors évidemment, il faut une coopération. Qui fait quoi ? Pas la concurrence. Il ne faut pas que l'hôpital prenne la place de la ville, mais si les malades viennent aux urgences faute d'avoir trouvé une réponse en ville, évidemment, nous voilà dans un embouteillage qu'on connaissait.
Est-ce qu'il faut, par exemple, rétablir...
Oui.
Est-ce qu'il faut, par exemple, rétablir l'obligation de garde pour les médecins libéraux qui a été supprimée il y a une vingtaine d'années et qui a contribué, cette suppression, à encombrer considérablement les services d'urgence ? Enfin, la hausse exponentielle des admissions aux urgences a commencé à ce moment-là, à peu près. Hein.
Oui, vous avez raison, mais elle ne peut pas être instaurée individuellement. À l'époque, on pouvait dire chaque médecin a son jour de garde. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des consultations, évidemment, c'est un travail d'équipe. Donc, les communautés de professionnels sur chaque territoire doivent avoir cette obligation de permanence des soins en rapport, en travaillant avec le service d'urgence de l'hôpital, en disant « ce malade est plus grave, il va aux urgences, celui-là, par contre, on règle le problème ». Mais ça ne peut pas se faire seul dans son cabinet. Ça nécessite des maisons de garde qui travaillent, des organisations, de coopération pour réaliser ça. Alors, ça se met en place, mais tout doucement. Et entre-temps, on a eu une gestion drastique de l'hôpital, parce que depuis 2008, la crise, on a dit, le ministère du Budget dit, il faut serrer. Et qu'est-ce qu'on sert ? Qu'est-ce qu'on peut serrer ? Eh bien, on baisse les tarifs de l'hôpital. On a demandé en 10 ans 8 milliards d'économies à l'hôpital. Alors que la ville, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc la ville négocie, les syndicats négocient avec la sécurité sociale, finalement ils ont des dépassements de 600 millions, puis l'hôpital, on lui prend cet argent, donc on en est arrivé au bout. Et là, les infirmières vont partir, enfin elles sont déjà parties en partie, parce que avant la crise du Covid, à l'assistance publique, il manquait 800 infirmières, alors que les postes étaient présents. Parce que comment voulez-vous gagner 1600 euros bruts en début de carrière et habiter dans la région parisienne, c'est absolument impossible. Dans des conditions de travail dégradées, alors ça c'est l'urgence de l'urgence.
Ouais. Alors on va en parler.
Oui. Ouais.
On va en parler dans un instant. Les salaires, l'attractivité de l'hôpital, d'autres mesures, et puis évidemment le budget, l'argent qu'on met dans le système de santé. Vous restez avec nous, André Grimaldi. On poursuit après une pause.
Europe 1. La suite de cette arrivée demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, auteur avec d'autres de Santé Urgence chez Odile Jacob, à la veille du début du Ségur de la Santé, 7 semaines de consultation pour soigner l'hôpital. Par où commencer, André Grimaldi ? Vous en avez parlé il y a 2 minutes, par une hausse des salaires pour payer plus justement les soignants et pour rendre l'hôpital plus attractif. Je rappelle, vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs dizaines de milliers de postes vacants aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire il y a d'abord un plan d'urgence, des mesures d'urgence, et à la limite, il n'y a même pas besoin d'un Ségur pour ça, pour restaurer la confiance. Et puis après, il y a une grande réforme à faire pour revenir aux principes, d'ailleurs, qui étaient ceux de 45-58, qui étaient la santé et le bien commun. Alors ce plan d'urgence, il comprend ce que vous avez dit, c'est-à-dire il faut se rapprocher de la moyenne de l'OCDE, on est en 28e position pour les salaires. Donc il faut un plan de rattrapage qui soit très significatif. Les infirmières et les soignants des urgences demandaient 300 euros. Par mois. La différence avec la moyenne de l'OCDE, c'est 450, vous vous rendez compte. Il faut aussi que les conditions de travail soient rapidement améliorées. Alors, cette histoire de fermeture des listes est devenue un dogme. L'hôpital Nord de Paris, Bichat-Beaujon, c'est 30% de lits en moins. Et on revoit ça quand c'est pareil. Partout, c'est pareil. Vous vous rappelez Nancy, le directeur de l'ARS, qui disait on va fermer les lits et 500 personnels en moins. Donc si on regarde ces conditions de travail, il faut quand même savoir qu'en France, 5 ans après le diplôme d'État, un tiers des infirmières changent de métier. Donc il faut il y a urgence. On nous donnait comme modèle de l'hôpital du 21e siècle le nouvel Hôtel Dieu qui va comprendre une galerie marchande, des soins médicaux et des logements. Sous le prétexte qu'on faut mélanger les hôpitaux dans la ville. Est-ce que c'est ça qu'a montré le Covid ? Est-ce que c'est ça l'hôpital du 21e siècle ? Donc ça, il y a un plan d'urgence. Il faut revenir sur ces plans de réduction drastique des lits, avec comme à l'époque, le seul miroir, c'était la Suède. La Suède a deux fois moins de lits que nous, parce qu'ils ont un autre système de santé. Et puis tout d'un coup, on regarde l'Allemagne, qui elle a 50% en lits de plus, et puis deux ou trois fois plus de lits de réanimation. Bon, ne regardons ni la Suède ni l'Allemagne, faisons ce que nous devons pour répondre aux besoins de santé de la population. Donc ça, c'est le plan d'urgence. Et puis après, c'est un grand plan de travail pour refonder le système de santé, comme l'a dit, mais enfin, entre les paroles et les actes, voilà, on attend.
Oui, comme l'a dit, y compris l'ancien ministre Agnès Buzyn, qui disait aussi, on va cesser de considérer l'hôpital comme une entreprise, finir avec la tarification à l'acte. Vous espérez qu'on y arrivera cette fois ?
Eh ben ça, je ne sais pas, parce que Marisol Touraine l'avait dit, ne l'a pas fait, Agnès Buzyn. Elle n'a rien fait, parce que Agnès Buzyn, son problème avec l'hôpital, c'est qu'elle a mis un plan, le plan Ma Santé 2022, il s'adresse fondamentalement à la ville. Et il dit qu'il faut aider la ville à s'organiser avec des communautés professionnelles sur les territoires, avec la permanence des soins dont vous parliez, avec le maintien à domicile des personnes âgées, etc. Tout ça était bien, mais pas chiffré dans le temps, pas vraiment financé. Et pour l'hôpital, il n'y avait rien, parce que l'idée, je pense, d'Agnès Buzyn, c'est « je suis une hospitalière ». Je vous comprends, moi aussi j'ai souffert, si j'étais avec vous, je signerais absolument tous vos textes, et puis rien. Ouais. Et par contre, le vrai ministre de la Santé, c'est ça que j'avais compris, c'était Gérald Darmanin, c'est le ministre du budget, c'est à Bercy. Et quand il dit, là je viens d'entendre votre information, et il faut qu'il y ait un intéressement financier dans les entreprises, des personnels, au gain de la... Oui, peut-être dans les entreprises, dans l'hôpital, ça serait monstrueux.
Oui.
Faites marcher la machine, opérez, vous aurez un intérêt financier. Non, on n'a pas vu, on n'a pas dit intérêt à soigner le Covid, on a dit vous soignez le Covid, et tout le monde s'est mobilisé, sans dire, attendez, moi je veux être payé à la pièce.
Donc, quelles sont vos suggestions, André Grimaldi, pour la gestion des hôpitaux ? Est-ce qu'il faut redonner du pouvoir aux médecins, comme ça s'est fait pendant la crise du Covid, on l'a beaucoup entendu ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a trop de personnel administratif dans les hôpitaux ? Je rappelle que la part de personnel non soignant représente environ un tiers des effectifs, et c'est plus que dans les hôpitaux comparables des pays voisins.
Non, là, vous avez raison, mais ça, on a le millefeuille bureaucratique à la française. On a rajouté trois échelons. Donc il y en a deux qui doivent sauter. C'est-à-dire, on a des pôles de gestion. Alors dans le même pôle, vous avez le service de néphrologie, la chirurgie et la maternité. Bon, ils gèrent quoi ? Bon, donc on a rajouté des groupements hospitaliers, alors qui vont de 1 million de personnes dans le territoire à 200 000. Tout ça. Et à chaque fois, c'est des réunions, des secrétariats, des reportings, des rapports, etc. etc. Et puis, des normes à respecter, des procédures à suivre. Enfin bon, il faut qu'on sorte de ça et qu'on redise que le soin est essentiel. Alors, dans la gestion d'hôpital, c'est évidemment complexe parce que il y a ce que vous dites, il y a les médecins qui ont un projet médical, mais il y a aussi les paramédicaux, faut pas obliger, c'est les soignants, qui disent est-ce qu'on a le personnel suffisant, formé correctement, et avec un bel nombre de personnel par unité de soins, adapté à la charge de travail. Et pas seulement dans le tableau virtuel, tableau Excel, mais présent, réellement présent. Alors, et ensuite, il y a quand même les patients. Les patients, maintenant, ont acquis les droits, ils ont leur mot à dire, notamment sur l'évaluation, sur l'accueil, sur la continuité des soins, sur les rapports avec la ville. Donc, il faut organiser cela dans un partage. La gestion, évidemment, est là pour dire, voilà ce que la société nous donne comme moyens, comment nous les répartissons-nous ? Et ça, c'est un rôle essentiel. Hein, mais là, on a dit, non, il faut des chefs d'entreprise. Il n'y a même pas à avoir besoin de culture santé publique pour être directeur d'un hôpital, puisque c'est une entreprise. Vous venez de chez Danone, finalement c'est une chaîne de production. Alors ça aboutit à ce qu'on sait. L'infirmière change de service d'un jour sur l'autre. Elle, à l'assistance publique, des fois elle commence à 6h. La même infirmière, 15 jours après, sera à 14h. Vous imaginez pour la vie de famille et vous imaginez pour le travail d'équipe. Donc on a dégradé avec une idée. On est dans une chaîne de production industrielle. Alors il y a une part de vrai là-dedans. La part de vrai, c'est les soins très techniques. Hein, le canal carpien qu'on fait en ambulatoire, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou la prothèse de hanche simple, bon, au fond, ça peut avoir des analogies avec le travail industriel. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup les cliniques privées qui se sont mis sur ce créneau-là avec efficacité. C'est pour ça qu'il faut définir complémentarité en garantissant l'accès aux soins aux tarifs remboursés par la sécurité sociale sur tout le territoire. Parce que ça, c'est le principe du service public, quel que soit le statut public, fonctionnaire ou privé, libéral, des professionnels.
Hein donc, pour terminer, André Grimaldi, oui. vous écrivez dans un très beau chapitre que le médecin doit être à la fois un ingénieur, bon ça on comprend, un artisan et un artiste. Et, expliquez-vous là-dessus.
Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a eu cette polémique sur le médecin-ingénieur. Le médecin-ingénieur, au condamné, il travaille sur des bases scientifiques, il évalue, il fait des hypothèses, il vérifie, enfin c'est tout le débat qu'on a sur les applications de la science. Le médecin-artisan, c'est que la science ne dit pas tout, loin de la médecine, et souvent on fonctionne encore, et là on progresse, hein, y compris avec l'intelligence artificielle, on progressera par tâtonnement. Hein. Aujourd'hui, on sait mal prédire si un malade va être répondeur à un traitement ou pas. Alors on saura mieux, on espère demain, mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait ? C'est on essaye, on corrige, on rectifie, hein, comme un artilleur ou un artisan. Et puis un artiste, c'est quelque part, un médecin est particulièrement dans la maladie chronique, c'est quelqu'un qui comprend que le patient, c'est aussi une psychologie, un mode de vie, un style de vie, une personnalité, une histoire. Hein, son histoire de vie. Alors, quand vous avez une maladie chronique, c'est pas seulement que vous avez une dysfonction d'un organe, c'est aussi que votre vie va changer, votre identité va être perturbée. Hein. Donc, ça, comprendre l'âme humaine, c'est indispensable.
Un artiste de la relation, écrivez-vous.
Un artiste de la relation. Ce qu'on voit, d'ailleurs, bon, comme dans le roman, comme dans la peinture, autre, c'est que vous comprenez derrière qu'il y a une autre histoire, le vécu d'un autre que vous appropriez. Et donc ça, c'est particulier. Donc c'est l'art de la relation. Un médecin devrait être tout médecin devrait être un spécialiste de l'âme humaine. Donc là, c'est un problème majeur. C'est la formation en psychologie qui est dramatiquement faible des étudiants en médecine.
Voilà. Merci beaucoup André Grimaldi. Je rappelle ce livre que vous avez dirigé avec Frédéric Pierru, encore une fois très, très complet, qui offre un très vaste champ d'analyse et d'état des lieux sur le système de santé. Santé urgence chez Odile Jacob.
Europe 1.
Les salaires ne sont pas au niveau où ils devraient être. Voilà 40 ans que l'austérité salariale pèse sur les fiches de paie et façonne nos économies. Il est temps d'en sortir. Il est possible d'en sortir. Celui qui parle est un économiste réputé, Patrick Artus, membre du comité exécutif de Natixis. Il est notre invité dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Patrick Artus.
Oui, bonjour.
Chef économiste de Natixis, vous publiez 40 ans d'austérité salariale. Comment en sortir ? Alors c'est un constat qui est souvent fait dans le débat public, les salariés n'ont pas bénéficié des gains de productivité réalisés depuis les années 80-90, beaucoup moins que les actionnaires, mais vous écrivez que si ce constat est vrai en moyenne dans les pays de l'OCDE, pas vraiment en France, il y a une exception française ?
Oui, franco-italienne d'ailleurs. Hein, pour l'ensemble de l'OCDE, et c'est particulièrement criant aux États-Unis, au Japon, mais maintenant en Espagne, depuis longtemps, depuis l'ère Thatcher au Royaume-Uni, en France et en Italie, on n'a pas cette déformation du partage des revenus, ce qui évidemment complique le débat. Il faut évidemment réfléchir à cette norme du capitalisme. Globalement, le capitalisme, depuis 30 ans, n'a pas donné aux salariés les salaires qu'ils auraient dû recevoir. Les salariés ont reçu à peu près que 40% des gains de productivité, alors qu'ils auraient dû recevoir la totalité des gains de productivité. Mais c'est pas vrai en France et en Italie, où à l'épaisseur du trait près, les salariés ont reçu à peu près les gains de productivité. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de pauvreté ou de bas salaire dans ces pays, hein, c'est pas mon propos. Il y a évidemment un problème de pauvreté, il y a un problème de bas salaire. D'autant plus, et c'est des calculs que je montre aussi dans le livre, que si on soustrait de l'augmentation des salaires la hausse du coût du logement, hein, qu'on soit locataire ou propriétaire de son logement, ben on ampute une grande partie des gains de pouvoir d'achat. Donc il y a bien un problème de bas salaire aussi en France et en Italie, mais on peut pas être dans le même débat qu'aux États-Unis. Si nous avions ce matin ce débat au sujet des États-Unis, on n'aurait aucun état d'âme, on demanderait une hausse très forte des bas salaires, une hausse très forte du salaire minimum. on ne peut pas faire ça en France. Hein. Donc la solution française est plus compliquée que la solution américaine ou japonaise à ce problème de bas salaire.
C'est-à-dire qu'on a des inégalités assez fortes, mais qui sont compensées ou même assez largement compensées par notre système redistributif ?
Oui, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, je crois. On va avoir, évidemment, après cette crise, un débat qui a commencé sur le partage des revenus, sur les inégalités, c'est parfaitement légitime. Simplement, il faut que ce débat... D'abord, il faut pas, ce qu'on entend parfois, il faut pas parler de la France en faisant semblant que ce sont les États-Unis, parce que parfois, on a cette mauvaise compréhension-là. Et ensuite, il faut bien voir le problème français. Nous avons des inégalités de revenus avant les politiques redistributives, hein, c'est-à-dire avant les impôts, les transferts sociaux, les aides aux plus pauvres, qui sont très élevées, qui sont plus élevées qu'aux États-Unis, ce qui est tout à fait incroyable. Hein. Et puis ensuite, nous avons des politiques redistributives qui sont les plus élevées aussi de l'OCDE. Ce qui fait que quand on regarde les inégalités après les politiques redistributives, elles sont très basses. Et donc, il faut bien réfléchir comme ça. C'est-à-dire que je crois que le problème de la France, contrairement à un certain nombre de propositions qui circulent, ce n'est pas d'augmenter encore les politiques redistributives, parce qu'on se heurte à une limite qui est la capacité à les financer. On finira par des taux d'imposition totalement décourageants qui stériliseront l'économie. Notre problème, c'est de réfléchir à ce qui fabrique les inégalités de revenus avant la redistribution. Et essentiellement, c'est que nous avons peu d'emplois. La cause essentielle de cette inégalité avant redistribution, c'est qu'il y a que 65% des Français en âge d'avoir un emploi qui ont un emploi, alors que dans la plupart des pays normaux, entre guillemets, on est entre 75-78%. Si on avait 10% en plus des Français de 20 à 65 ans, disons, qui avaient un emploi, nous aurions beaucoup moins d'inégalités, et donc nous aurions beaucoup moins besoin de corriger les inégalités. Donc je crois que toutes les propositions de surcharge fiscale qui circule aujourd'hui, qui ne s'intéresse pas en fait à la cause profonde des inégalités, qui est la faiblesse du nombre d'emplois, sont dans l'erreur. Hein. Et malheureusement, évidemment, on voit que ce débat est parti plutôt sur l'idée qu'il faut augmenter les impôts, plutôt que sur le fait qu'il faut créer des emplois, hein, que c'est ça qui est essentiel si on veut réduire les inégalités.
Oui, enfin là, le débat d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'en limiter la suppression le plus possible, Patrick Artus.
Oui, oui. Alors, il y a une question liée à cette crise. Mais je veux dire, dans le débat de fond, vous voyez que ce qui est les demandes, c'est une demande de remettre des surcharges fiscales sur les personnes les plus riches aux revenus les plus élevés. Alors, il peut y avoir là-dedans du symbolique, mais je veux dire, du point de vue de l'économie, faisons très attention. Parce que nous avons ce cercle vicieux de la France, hein, où comme nous surtaxons par rapport aux autres pays, nous détruisons de l'emploi, et en détruisant de l'emploi, nous fabriquons des inégalités. Donc il faudrait essayer, dans tout ce qu'on va faire, de bien réfléchir à cela, et de se dire que, mais ceci n'est pas du tout contradictoire avec votre remarque, hein, que notre problème essentiel, et d'autant plus qu'il y a cette crise, ça va être de créer des emplois. Hein. Et donc toutes les politiques économiques doivent avoir cette réflexion qui est-ce que cette politique crée des emplois ou pas ? Et donc il faut faire très attention à ne pas proposer des politiques économiques dont on sait qu'elles détruisent de l'emploi.
Alors quels sont les mécanismes que vous proposez qui seraient susceptibles de créer des emplois et de remonter le taux d'emploi dont vous avez souligné la faiblesse en France ?
Alors, je dirais un mot après du problème de financement. Si on avait une liberté budgétaire totale, ce qui est le cas cette année, parce que la Banque Centrale Européenne achète tous les déficits publics et toutes les dettes que nous émettons, mais qui sera peut-être pas le cas très durablement, qu'est-ce qu'on ferait ? Ben, on continuerait à baisser le coût du travail au niveau des plus bas salaires. Alors, on a enlevé pratiquement toutes les cotisations sociales au niveau du SMIC, mais il faudrait sans doute aller plus loin. Et peut-être, cotisation sociale, ça peut être négatif. Hein. C'est-à-dire que l'État donne de l'argent à des entreprises qui embauchent des personnes peu qualifiées. Notre problème de chômage, c'est surtout un chômage des peu qualifiés. Hein, le taux de chômage des peu qualifiés, juste avant la crise, il était de 14% à peu près. Hein. Donc, il faudrait continuer cette politique de baisse du coût du travail peu qualifié, sans baisser le SMIC, bien sûr, au contraire. Hein. On voit bien qu'il y a même une demande de monter les bas salaires, mais en continuant à alléger les charges des entreprises, y compris à nouveau avec des charges négatives, quoi, qui sont une aide aux entreprises. Ensuite, je crois qu'évidemment, il y a la question que tout le monde a à l'esprit des professions vous parliez santé juste avant, hein, des professions oui. où typiquement il y a un problème de recrutement et un problème d'attractivité pour les jeunes, avec des problèmes de rémunération trop basses, hein, dans la santé, dans l'éducation. On a eu ce débat dans l'éducation avant la crise. C'est des professions où on sait qu'on paye entre 20 et 30% de moins que les autres pays de l'OCDE. Là, c'est du côté de l'État, hein, c'est plutôt moins du côté du secteur privé. Et donc là, bien sûr, il faut, à mon avis, réfléchir à monter ses salaires et considérer qu'il ne s'agit pas d'une dépense publique, il s'agit d'un investissement public. Hein. Attirer des jeunes qualifiés et motivés dans la santé et l'éducation, ça fait de la croissance, quoi. Donc c'est un investissement, c'est pas une dépense. Et après, il reste la question des personnes fragiles. Hein, on a vu dans cette crise la grande disparité entre des personnes qui étaient relativement protégées et des personnes fragiles. C'est une réflexion qu'on avait déjà avant. Et je crois qu'il faut réouvrir un débat probablement sur une forme de revenu universel. En mettant de l'ordre dans toutes les aides, hein, il y a des quantités incroyables que vous connaissez d'aides sociales pour les personnes aux revenus les plus faibles. C'est un bazar complet. Les règles ne sont pas les mêmes. Ça veut dire à chaque fois un dossier différent avec des règles d'attribution différentes. C'est totalement infernal pour les personnes qui ont besoin de ces aides. Donc il faut unifier toutes ces aides dans une espèce de revenu universel pour les personnes fragiles. Voilà. Si on fait ça, on aura fait un grand progrès, quoi. Hein. Donc un revenu unifié, une aide unifiée pour les personnes les plus fragiles. Des aides à la création d'emplois, surtout pour les moins qualifiés, et des hausses de salaire dans le secteur public, là où il faut attirer des jeunes de qualité. Et alors, en disant tout ça, j'ai totalement, évidemment, ignoré le fait que tout ça, c'est des charges pour les finances publiques. Et donc,
alors, on va y venir. On
a évidemment
on va
un problème
dans
de financement
un instant.
De tout ça.
Évidemment, on va parler des déficits et la dette et des moyens de financer tout ça. Après une pause dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec l'économiste Patrick Artus, avant d'évoquer les montagnes de dettes que nous sommes en train d'accumuler, je voudrais votre regard, Patrick Artus, sur cette ébauche de solidarité européenne inédite avec une proposition franco-allemande d'emprunter sur les marchés au nom de l'Europe tout entière, de créer un endettement européen pour financer des projets de relance dans les pays les plus en difficulté. C'est une bonne idée ?
Oui, mais il faut le lier évidemment aussi au débat sur la dette. Alors c'est une très bonne idée politiquement, parce que vous avez vu la montée du sentiment anti-européen dans un certain nombre de pays, en particulier en Italie, avec l'idée que l'Europe n'a pas fait ce qu'il fallait pendant cette crise, n'a pas soutenu les pays les plus en difficulté, qu'il n'y a pas d'Europe de la santé, qu'on a eu chacun nos règles, hein, regardez ce qui se passe sur le déconfinement et l'ouverture des frontières par exemple. Et donc tout ce qui montre la solidarité européenne a un intérêt politique majeur. L'intérêt financier, ben, on est obligé de lier cette question à celle de l'intervention de la Banque Centrale Européenne. Tant que la BCE, ce qu'elle fait cette année, achète la totalité des dettes publiques qui sont émises par les pays pour financer leur déficit public, il n'y a pas de problème de financement, y compris pour les pays les plus fragiles, qui sont sûrement aujourd'hui l'Italie et la Grèce, hein, donc dans les grands pays d'Italie. Donc quand l'Italie fait cette année un déficit public à peu près le même que le nôtre, hein, qui va être d'à peu près 9% du produit intérieur brut, mais que les émissions de dettes que l'Italie réalise sont achetées par la Banque Centrale Européenne, l'Italie n'a pas à convaincre un investisseur privé, un assureur allemand par exemple, d'acheter cette dette, et donc il n'y a pas de problème de financement, les taux d'intérêt ne montent pas, et donc le déficit public ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si la BCE ne revend jamais la dette qu'elle achète, cette dette en réalité, elle n'existe pas. Elle est prise par la BCE, elle est conservée par la BCE, qui ne la remet jamais sur le marché, donc on peut considérer que cette dette n'existe pas. Le problème,
elle est absorbée par la Banque Centrale.
Oui, et elle est remplacée par de la monnaie, en fait. Quand l'État français finance le chômage partiel, il émet une obligation qui est achetée par la Banque de France, hein, pour le compte de la BCE. La Banque de France paye en créant de la monnaie. Et tant qu'on en reste là, ce qui a financé le chômage partiel, c'est de la création monétaire, c'est pas de la dette. Simplement, on n'a pas de visibilité sur la suite. C'est-à-dire qu'en 2020, on voit évidemment qu'il n'y a aucun problème de financement et qu'on peut aller à n'importe quel niveau de déficit public. D'ailleurs, on va sans doute aller plus haut encore que 9%. Mais 2021, que fait la BCE? Est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle arrête? Est-ce qu'elle diminue? On n'en sait rien. On n'en parle pas. C'est trop loin. Et il est très prudent pour les États de considérer que la BCE ne va pas faire ça de façon permanente. On ne va pas rentrer dans une situation ce que suggéraient certains économistes américains, ça s'appelait la théorie monétaire moderne, hein, où les banques centrales, finalement, financent par la création monétaire n'importe quel déficit public pendant n'importe quelle période de temps. Donc certainement la BCE ne fera pas ça. Et donc il faut une position de repli au moment où la BCE arrête de le faire. Cette position de repli, c'est évidemment la mutualisation des financements au niveau européen. Parce que quand on fait ça, bah, ce qui finance les besoins de l'Italie, c'est de la dette européenne et c'est pas de la dette italienne, donc c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus facile à produire, à émettre, c'est beaucoup moins cher en termes de taux d'intérêt. En gros, c'est 0% contre 2% aujourd'hui, ce qui fait une colossale différence. Voilà. Et donc c'est à la fois intéressant à partir du moment où la BCE est moins présente et important financièrement, évidemment politiquement c'est essentiel. Alors après il faut convaincre les pays, vous savez on parle des pays frugaux maintenant, hein, et même oui. Certains disent radins mais disons frugaux. Donc l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Danemark et l'Allemagne de temps en temps qu'il faut faire ça. Il faut leur expliquer qu'il s'agit d'investissement. On ne va pas financer des dépenses publiques courantes avec ces financements européens. On va financer la transition énergétique, l'industrie du médicament, l'éducation, la requalification des salariés qui va être un problème majeur après cette crise, parce que il y a plein de secteurs qui vont licencier et il y a plein de secteurs qui vont chercher à embaucher. Donc il va falloir que des gens changent de métier. Hein. Et donc tout ça, c'est de l'investissement. Donc il n'y a aucun effet pervers de financer par des fonds européens des investissements. On ne va pas financer des trous budgétaires qui ne correspondent pas à des investissements utiles. Donc il faut expliquer ça aux pays du Nord, et on va y arriver, je pense. Donc c'est très important, et d'autant plus à nouveau que la BCE sera moins présente qu'aujourd'hui dans le futur.
Ouais, en dehors de la BCE, le débat divise aussi les économistes sur ces montagnes de dettes et la question de savoir s'il faudra les rembourser un jour ou dans 50 ans ou jamais. Patrick Artus.
Alors, pour l'instant, si la Banque centrale achète cette année une dette, ne la revend pas, et lorsque cette dette arrive à échéance, donc si elle achète une obligation à 10 ans de l'État français, normalement dans 10 ans, l'État français devrait rembourser la BCE. Et si à ce moment-là, la BCE rachète une autre dette de l'État français à 10 ans pour le même montant, vous voyez que vous avez une dette qui est perpétuelle, hein, puisqu'elle n'est jamais remboursée en réalité, elle est toujours renouvelée. Et comme la Banque de France, puisque là il s'agit de la Banque de France, verse ses profits à l'État français, elle rend à l'État français les intérêts que l'État français lui paye sur cette dette. Donc cette dette, elle devient perpétuelle et gratuite. Donc il n'y a aucun problème jamais de remboursement. Alors à nouveau, la BCE n'a pas signé un papier disant « dans 10 ans, je rachèterai une autre dette du même montant ». Elle ne l'a pas dit, donc on peut se poser la question de savoir si elle le fera vraiment. Si elle le fait, ce problème de remboursement de cette dette ne se posera jamais. Après, on peut aussi imaginer que par précaution, et en se disant que peut-être que la BCE finira par changer de politique dans le futur, l'État français pourrait aussi émettre de la dette extrêmement longue que vous mentionniez. Si l'État français se finançait à 50 ans aujourd'hui, il paierait à peu près 0,7% de taux d'intérêt hein, pendant 50 ans, ce qui permettrait d'avoir un coût extraordinairement faible pour financer des investissements qui, de toute façon, ont une rentabilité supérieure à 0,7%. Donc honnêtement, il n'y a pas de problème de remboursement. Je crois que c'est un faux débat. Que ce soit la BCE, que ce soit de la dette très longue finançant des investissements intelligents, il y a plein d'investissements intelligents à faire, je ne vois pas du tout le problème de remboursement.
Merci beaucoup Patrick Artus. 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir? Ça paraît dans quelques jours chez Odile Jacob.
Europe 1.
Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve samedi prochain, un peu après 9h, dans quelques minutes. Le grand rendez-vous, CNews, Les Échos. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour. Marc Fesneau, ministre Modem, donc avec les relations avec le Parlement. La majorité se fissure et le Modem devient l'airbag du macronisme.
Très bien. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.